carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on commence tout de suite avec l'actualité nationale, comme tous les jours, avec Adeline Frater. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Alors une question pour commencer aujourd'hui. Combien de travailleurs ont deux jobs chez nous?
Alors en effet, Tariq, c'est un record en Belgique. 6,1% des travailleurs cumulent aujourd'hui deux emplois, selon les chiffres d'Eurostat analysés par Acerta. Un chiffre en hausse de près de 50% en 10 ans, porté notamment par la popularité des flexi-jobs. Pour la première fois, hommes et femmes sont désormais aussi nombreux à exercer une deuxième activité.
Et on reste dans le domaine aussi des salaires avec ces inquiétudes, Adeline.
En effet, de plus en plus de salariés belges doutent de l'équité de leur salaire. Selon une étude du Parthénat professionnel, seuls 51,8% estiment être rémunérés équitablement en 2026 contre 57,3% l'an dernier. La part de travailleurs insatisfaits reste stable, mais les réponses neutres progressent fortement. L'étude souligne aussi un écart persistant entre hommes et femmes, alors que les règles européennes sur la transparence salariale doivent entrer en vigueur d'ici mi-2026.
Voilà, on enchaîne Adeline avec la Wallonie où le PEB s'invite finalement dans la grille des loyers.
Et oui, les loyers, les logements sociaux seront bientôt liés à la performance énergétique du bâtiment. Le Parlement wallon a approuvé un décret prévoyant un plafond pouvant aller jusqu'à 26% des revenus pour les logements les plus performants. L'objectif affiché est de financer la rénovation du parc public, mais l'opposition critique une hausse des loyers, même pour des logements peu efficaces. La réforme entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain.
La suite, cet engouement plutôt inattendu de nos jeunes envers l'armée.
En effet, près de 3000 jeunes, exactement 2959, se sont déjà inscrits pour tenter de décrocher l'une des 500 places du service militaire volontaire, selon le ministre de la Défense Théo Franken. Au total, 149 000 lettres ont été envoyées aux jeunes de 17 ans. 4 candidats sur 5 sont des hommes, avec un équilibre entre francophones et néerlandophones. Les inscriptions se clôturent le 9 avril pour un début de service prévu en août.
Et on termine avec cet avis aux allergiques au pollen.
En effet, la Belgique fait face à un pic de pollen particulièrement intense, notamment pour le noisetier et l'aulne, avec une saison qui débute plus tôt que d'habitude. En cause, le changement climatique qui provoque des variations brutales de température et des concentrations massives de pollen. L'allergologue Lise-Marie Van Den Zand recommande de fermer les fenêtres la nuit, porter des lunettes à l'extérieur et recourir aux antihistaminiques en cas de symptômes.
Voilà, merci Adeline Frater pour toutes ces infos nationales et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'info.
Carrefour de l'info sur Arabelle.
Je vous lisais tout à l'heure dans les titres, après plus de 600 jours de blocage politique, Bruxelles a enfin un nouveau gouvernement régional, un accord de coalition qui suscite déjà pas mal de réactions. L'association Urbaine Brale estime que ce texte manque de vision et d'ambition, notamment en matière de mobilité, de logement, d'urbanisme et d'environnement. Et on voit tout cela avec Geoffrey Usé, coordinateur chez Brale, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors une première question, si vous le voulez bien. Tout d'abord, pourquoi notre capitale retrouve un gouvernement régional complet? Qu'est-ce que ça représente finalement ce retour à l'exécutif pour les habitants et pour la ville?
Mais premièrement, je pense que ça permet de retrouver un peu de sortir de l'incertitude, surtout en fait. C'est surtout ça pour la population aussi, pour le monde associatif, pour le monde économique, pour l'ensemble de Bruxelles en général. Ça nous permet de retrouver un peu de stabilité et de s'assurer que la gestion de Bruxelles est repartie un peu sur les rails. Mmh. Voilà, mais maintenant, est-ce que sortir de l'incertitude ne donne pas forcément une vision à cet accord de gouvernement? Mais ça.
Justement, est-ce qu'il y a des points qui vous semblent, disons, les plus importants dans cet accord de gouvernement?
Mais comme nous, on l'a exprimé dans notre analyse de la déclaration de politique régionale, c'est que, alors, on est content d'y retrouver des points comme la mobilité, comme la question du logement, comme la question de l'urbanisme, mais on est surtout très inquiet des choses qui ne sont pas présentes dans cet accord de gouvernement. Alors, si on le compare à l'accord de gouvernement de la législature précédente, on se retrouve avec un texte francophone d'une trentaine de pages, néerlandophone de 24 pages, contrairement à un texte qui en faisait plus d'une centaine, qui était beaucoup plus détaillé, qui allait beaucoup plus loin, qui portait une vraie vision pour Bruxelles. Ici, on se retrouve avec, on a l'impression d'avoir une espèce de collage ou de puzzle de différentes mesures où chaque parti est venu un peu positionner un peu sa wish list de mesures qu'il voulait voir figurer dans cet accord. Donc voilà, ça manque un peu de cohérence et de vision à notre, selon nous en tout cas.
Alors on va aller un petit peu dans le détail. On commence par le plan Good Move qui change selon certains de nom, mais certains principes restent. Comment finalement vous, le Bral, vous analysez ce changement pour les déplacements à Bruxelles?
Mais nous, notre lecture, c'est que finalement, fondamentalement, rien ne va changer. Certes, le nom va disparaître, mais de ce que nous, on lit, c'est que le plan continue son chemin. C'est-à-dire qu'il est il va entrer dans un processus d'évaluation à l'échéance 2030. Il va y avoir un processus de préparation de la suite de Good Move. Donc nous, de ce qu'on lit, c'est que a priori, les mesures qui ont été mises en place vont rester. Elles vont certes changer d'échelle. On a vu que les mailles apaisées vont être réduites. Il va y avoir un focus sur les écoles. Mmh. Il y a un gros point aussi sur la sécurité routière. Donc, c'est des choses intéressantes. On voit aussi que le gouvernement souhaite maintenir l'offre de transport en commun ou même investir avec, par exemple, la validation de la ligne du tram du Tour et Taxi, qui pour nous semble une bonne chose. Voilà, donc on est plutôt satisfait. Maintenant, on doit rester très attentif. On va être dans un gouvernement où on sait que le MR et le PS ne sont pas des grands défenseurs de cette politique de mobilité-là. Donc voilà, il faudra qu'on reste attentif à ce que ce plan puisse être mis en œuvre comme il est prévu et que le processus légal, à savoir son évaluation et la préparation du second, soit bien planifié par le gouvernement actuel.
Vous parlez mobilité, donc il y a aussi le fameux projet du métro 3 qui a fait couler, on le sait, beaucoup d'encre, ou le palais du Midi, on connaît des blocages qui ne sont pas d'ailleurs mentionnés. Qu'est-ce que vous pensez justement de la gestion des grands projets dans notre capitale de l'Europe pourtant?
Alors pour le coup, je pense que l'accord de gouvernement est plutôt clair sur la question du métro, c'est-à-dire que la phase, la boucle sud qui relie Albert à la gare du Nord sera terminée, mais on n'y fera pas rouler un métro, on y fera rouler un tram. Donc voilà, on se demande un peu quel était, enfin tout ça pour ça en fait, avec tous les soucis que ça a causé en termes de gestion de l'espace public, notamment dans le quartier de Stalingrad et le quartier du Midi, la question du palais du Midi.
Est-ce que ça l'a coûté aussi?
Est-ce que ça a coûté aussi, en effet? Je pense qu'on va être sur la ligne de tram la plus chère du monde, peut-être par kilomètre. Donc c'est vraiment dommage. Alors après, pour ce qui est de la boucle nord, je pense que ça n'est que logique qu'elle soit mise en pause, puisqu'il n'y a pas de budget à l'heure actuelle, il n'y a pas de permis d'urbanisme, donc toute la partie entre la gare du Nord et Bordeaux. Voilà, donc ça, pour nous, ça n'était que logique de ne pas s'engouffrer dans cette voie-là. Maintenant, pour la partie sud, toute la question du palais du Midi reste toujours actuelle. Donc là, de la façon dont nous on lit, c'est de dire que finir les travaux entamés avec le pôle Constitution, ça nécessitera malheureusement d'abattre le palais du Midi. Or, nous, le Bral et d'autres associations comme l'ARO ou IEB, on s'est largement opposé à la destruction du palais du Midi parce qu'il y avait des alternatives qui n'ont pas, dont le gouvernement précédent ou la STIM n'ont pas voulu étudier la possibilité. Et là, maintenant, on se rend compte que finalement, on va quand même s'orienter vers un tram, donc il y avait quand même des alternatives. Donc voilà, c'est vraiment un peu du gâchis, en fait, ce métro 3.
Voilà, on va ouvrir un autre dossier. Il y en a pas mal à Bruxelles qui pose problème, celui du logement. Quelle est votre position, celle du Bral, sur ces mesures prévues pour les Bruxellois les plus vulnérables?
Alors, ce qu'on peut regretter, c'est que, alors, on y fait certes mention de la nécessité d'augmenter le parc de logements sociaux, de la nécessité d'offrir la possibilité à tout le monde de pouvoir trouver un logement décent. Mais notre lecture, c'est que, à nouveau, on se retrouve pas avec un cadre contraignant, notamment pour les personnes qui sont locataires et qui vivent de plein fouet l'augmentation des frais liés au logement et l'augmentation du prix des loyers à Bruxelles. Et donc, on reste sur une base volontaire avec des incitatives volontaires qui, pour nous, ne sont pas efficaces sur ces questions-là. Et donc, les mécanismes qui sont proposés dans le cadre de l'accord de gouvernement, a priori, n'auront pas ou très peu d'effets sur le marché locatif. Oui. Et donc, de nouveau, on favorise les propriétaires. Et encore, de nouveau, les mesures qui sont proposées, comme l'augmentation du plafond pour l'abattement des droits d'enregistrement. Mais si on regarde ce qui s'est passé en Flandre ou ce qui se passe en Wallonie avec la diminution des frais d'enregistrement, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. C'est-à-dire que ça a augmenté la pression sur le prix de l'immobilier en Wallonie ou en Flandre. Et on se rend compte que la propriété reste aux mains de personnes les plus favorisées, les plus privilégiées. Donc voilà, de cette lecture-là, nous, On pense que d'autres mécanismes, comme l'encadrement strict des loyers, comme avoir une grille des loyers qui est plafonnée et qui prend en compte la performance énergétique des bâtiments, qui prend en compte la localisation et qui encadre vraiment les loyers, aurait été une mesure beaucoup plus efficace, en tout cas en termes d'équité sociale pour les Bruxellois et les Bruxelloises.
Alors Geoffrey Usé, on enchaîne avec la qualité de l'air et les enjeux écologiques qui semblent sont peu présents dans cet accord. Est-ce que cela suscite quelques inquiétudes pour la santé et le futur de Bruxelles ?
Et en fait, la qualité de l'air, elle a été versée dans le volet mobilité, ce qui pour nous n'a pas de sens en soi. Alors, on sait que la low emission zone, il y a eu beaucoup de polémiques parce qu'on touche directement au trafic automobile. Mais la qualité de l'air, c'est plus que ça. C'est l'isolation des bâtiments. C'est tout ce qui est lié à la combustion de matières fossiles, notamment pour les chaudières. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là qui ne s'y retrouvent pas. Et on le sait, Bruxelles est... Alors, ça s'améliore, notamment grâce à la mise en place de la zone basse émission. On a vu dans ces dernières années que la qualité de l'air s'est améliorée à Bruxelles, mais on est toujours beaucoup trop haut par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et par rapport aux normes européennes. Donc, pour nous, ça nous semble un peu, de nouveau, un acte manqué, et alors que la santé des Bruxellois et des Bruxelloises, elle est universelle, je veux dire, tout le monde est concerné. Alors, on y est peut-être un peu moins sensible lorsqu'on souffle pas d'une maladie cardio-respiratoire ou qu'on n'a pas des enfants qui sont touchés par des crises d'asthme, mais les économies qu'on pourrait réaliser au niveau des soins de santé en matière de prévention et en matière d'amélioration de la qualité de l'air, ils sont essentiels et pour nous, ils ne s'y retrouvent pas du tout dans ces déclarations de politique générale.
Alors, vous qui tirez un petit peu à boulet rouge sur ce gouvernement, est-ce qu'il y a des sujets, disons, centraux, cruciaux sur la ville qui n'ont pas été abordés justement dans l'accord ?
Mais on se rend compte surtout que, en fait, tout ce qui est lié, le volet environnemental a complètement disparu de la déclaration de politique régionale, tout ce qui est lié à la justice sociale, tout ce qui est lié à la cohésion sociale. Donc toutes ces mesures qui font que on peut aider les plus démunis, qu'on travaille à la solidarité dans les quartiers, qu'on travaille à faire de Bruxelles un endroit plus agréable à vivre, ne s'y retrouve pas du tout. Et donc en fait c'est ça qui nous inquiète, tout ce qui est volet participation, démocratie locale, inclure les citoyens dans le débat politique, lui permettre de participer à la vie politique. Mais tout ça ne s'y retrouve pas et donc c'est un peu dommage. On a des thématiques nécessaires. Oui, il est intéressant de pouvoir redresser Bruxelles économiquement, de créer de l'emploi, de diminuer le taux de chômage. Mais on n'y arrivera pas sans des politiques d'accompagnement social et sans les politiques sociales, les politiques d'accompagnement. Et aujourd'hui, tout ça, toute la prévention aussi, tout le volet prévention n'y s'y retrouve pas. Si on regarde le volet sur la sécurité, on a, 10 millions supplémentaires pour la sécurité autour des gares. On a un volet très répressif sur la question de la criminalité liée au narcotrafic. Mais de nouveau, tout le volet préventif, accompagnement des personnes qui sont sur les questions d'assuétude, ne s'y retrouve de nouveau pas. Et donc, je pense que oui, c'est un gros manque, en tout cas dans cette déclaration de politique régionale.
Alors, encore une dernière question, et je vous libère, c'est promis. Si on voudrait synthétiser tout ça, si vous deviez résumer ce que les habitants, les Bruxelloises et les Bruxelloises doivent retenir de ce gouvernement et de ces choix, qu'est-ce que vous direz ?
Mais je pense que, en fait, il faut rester très lucide par rapport à cet accord de gouvernement. Alors, il y a des bonnes choses. Il faut pas tout jeter à la poubelle, hein. Je pense qu'en effet, les questions, le projet lié à la mobilité, les questions liées à la simplification administrative sont des bonnes choses. On peut être d'accord ou pas d'accord sur les méthodes ou sur la façon dont ce sera mis en œuvre, mais je pense qu'il y a des principes intéressants pour les Bruxellois, pour les Bruxelloises, mais je pense qu'il faudra rester très attentif dans les trois prochaines années sur le fait de ne pas tomber dans des questions où on risque de perdre des acquis en termes de participation, en termes de démocratie directe, en termes de service à la population. Il y a un très gros volet sur la réforme des administrations. Je pense qu'il faudra rester très attentif sur le fait de ne pas perdre en accessibilité et en facilité pour tout ce qui est procédure administrative pour les Bruxellois. Je pense que ça va être un enjeu très, très important pour cette nouvelle législature.
Un enjeu très important. La conclusion de Geoffrey Usé, je rappelle que vous êtes coordinateur chez Bruxelles Merci pour votre analyse sur cet accord de gouvernement.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info. À tout de suite.